France Inter, il est midi et demi. Je ne vais pas vous annoncer tout de suite la venue du Père Noël, mais celle de Bruno Duvic. Bonjour Bruno, pour les titres du 13-14.
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et bien dans le 13-14, nous analyserons cet accord trouvé hier entre Royaume-Uni et Union Européenne à propos du Brexit, les conditions du commerce à partir du 1er janvier. Ce détail, qui n'en est pas un, loin de là, le Royaume-Uni sort du programme d'échange international Erasmus. Nous verrons quelles sont les conséquences. Et puis, il fait 1500 pages cet accord, il y a donc certainement beaucoup de détails qui vont émerger au fil des jours, voire des semaines. Nous irons à Bruxelles et à Londres. Nous entendrons des pêcheurs soulagés d'éviter le no deal. Et puis la satisfaction également du président d'Eurotunnel, qui s'appelle Getlink aujourd'hui. Et puis nous nous interrogerons sur l'avenir politique du négociateur européen Michel Barnier. L'épidémie en France est le dernier point de Santé publique France, qui est préoccupant sur les chiffres de l'épidémie. Et puis l'envie, la volonté de se vacciner qui ne monte pas en France. Nous dresserons un bilan en ce jour de Noël de l'année spatiale avec l'astrophysicien François Forger. Et puis notre invité à 13h30, c'est le navigateur Loïc Perron qui publie un dictionnaire amoureux de la voile en plein Vendée Globe. Avec Loïc Perron, question sur sa longue et magnifique carrière, sur cette vie passée en mer et puis sur le Vendée Globe. J'attends vos questions à vous au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, rubrique Réagir, c'est à 13h30. Voilà pour le 13-14, à tout à l'heure.
Merci Bruno, à tout à l'heure.
France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Je me suis posé la question de savoir ce que nous pourrions vous offrir pour Noël. De nouvelles initiatives, un hymne à la solidarité, et puis rapidement, une bonne dose de poésie et de tendresse s'est imposée. Je l'ai trouvé dans un livre qui pourrait s'appeler « Recueil de pensées rédigées en complicité avec les animaux ». Les animaux, les mots animés, l'âme des animaux. J'offre cette respiration aujourd'hui à Jeannine et Gaston, mes fidèles compagnons. Comme vous pouvez dédier ce petit moment à votre chat, votre chien, votre âne, votre cheval, votre tortue, votre perruche, et j'en passe.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Mon Père Noël, moi s'appelle Jean-Louis Fournier. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Auteur de Merci qui, Merci mon chien, tendre savoir-vivre avec les animaux, qui paraît chez Buchet-Chastelier. Il y a une foison de références littéraires, de citations, d'émotions surtout, et de souvenirs personnels. Merci qui, Merci mon chien, ça pourrait être Merci ma chatte, Art déco.
Ah, c'est merci à tous. Parce que si vous voulez, j'ai passé mon enfance à ce qu'on me dise toujours, faut dire merci monsieur, merci madame, merci monsieur le curé, pourquoi pas merci mon Dieu. Et je me dis, plus difficile à dire. Et je me suis dit, mais pourquoi on dit jamais merci aux animaux? Parce que tout ce qui nous amène, c'est extraordinaire quand même. Ouais. Parce que quand on disait merci mon chien, c'était par dérision. C'est quand on n'avait pas dit merci papa, merci maman, on se faisait engueuler, on disait merci mon chien. Ça paraissait absurde de dire merci mon chien. Et puis je me suis dit, mais c'est pas si absurde de remercier les bêtes.
Oui, mais alors,
tout ce qu'elles font pour nous.
Nous sommes cruels. Et vous le dites, oh, c'est tellement bon, une côte de bœuf. Alors, évidemment, il y a des personnes végétariennes qui vont tout de suite réagir. Et pourquoi dit-on pas merci, monsieur le bœuf?
Mais qu'est-ce que je fais là? Je fais une lettre à un bœuf après avoir mangé une côte de bœuf. Je lui dis, ta côte était absolument sublime. Bravo, tu t'es formidable. Et on peut manger ce qu'on aime.
Il y a eu un changement récemment, et trop récemment, il date de 2015, c'est un article, alors l'article 515-14, ajouté au livre 2 du Code civil, je cite, « Les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Ils sont des animaux vivants, doués de sensibilité. »
C'est extraordinaire d'avoir dit ça, mais vous savez que c'est en contradiction totale avec le grand Descartes, oui, qui a dit des bêtises absolument phénoménal, il n'a pas dit que des bêtises, hein, mais sur les animaux. Il a dit que les animaux n'avaient ni pensée, ni conscience, qu'ils étaient des machines. C'est quand même, c'est lamentable, un type comme Descartes. Moi, je pense que l'association des amis de Descartes qui existe devrait faire une lettre d'excuse à tous les animaux, parce que quand même, vous vous rendez compte pour les petits animaux qui naissent?
Ouais. Alors, heureusement, son frère ennemi, Voltaire, écrit ceci, il faut, ce me semble, avoir renoncé à la lumière naturelle pour oser avancer que les bêtes ne sont que des machines. Il y a une contradiction manifeste à convenir que Dieu a donné aux bêtes tous les organes du sentiment et à soutenir qu'il ne leur a point donné de sentiment.
Bravo Voltaire.
Bravo Voltaire. Je dis pas ça tous les jours, mais cette écriture est un peu sous la conduite d'Art déco et vous m'avez fait penser, Jean-Louis, à un livre, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, Feu Yves Navarre, qui s'appelait
Bien sûr.
Une vie de chat.
Évidemment.
Magnifique. Et il était un soir invité chez Bernard Pivot apostrophe, et Pivot lui pose des questions, il dit « mais je ne peux pas répondre à vos questions, c'est ma chatte qui a écrit ».
Ah, il avait dit ça carrément, parce que je le connais, enfin je le connaissais bien évidemment. Mais moi j'ai avec Art Déco, c'est vrai, des relations tout à fait... elle s'appelle Art Déco parce qu'elle est blanche et elle a des taches noires artistiquement disposées.
Ouais.
Puis elle est plus belle que tout. Et alors elle a été à côté de moi pendant que j'ai écrit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas écrit carrément, mais elle relisait mes chapitres. Et je voyais à son air si elle était contente ou pas contente.
Ouais.
Quelquefois, elle fronçait le nez, elle était pas... Il y a des choses. Et alors, à la fin, quand j'ai eu fini le livre, j'étais quand même, je voulais savoir qu'elle le lise dans la continuité et voir son sentiment. Ouais. Elle l'a lu entièrement, j'étais... Moi, je tremblais. Et alors, elle avait l'air contente. Et alors, elle m'a dit simplement, je suis fier de toi, t'aurais mérité d'être un animal.
Ouais.
Ça, j'ai pris ça pour vraiment le plus grand compliment qu'un animal vous fasse.
En vous lisant, elle buvait du petit lait, quoi.
Comment ?
Elle buvait,
du petit lait.
Ouais. Il y a un fameux sketch de Vos, Mon chien, c'est quelqu'un.
Ah oui, vous souvenez, c'est superbe, ça.
Et un soir, il est en train de manger, et son chien lui dit, ton plat est pas bon, et il dit, bah, tes croquettes non plus. Ou ta pâté non plus, c'était plutôt de la pâté.
Ah oui, oui, c'est génial, ça.
Ouais. Et ça m'a mis la puce à l'oreille, dit-il. Et mon chien serait là, il en parlerait beaucoup mieux que moi.
Ce qui est formidable, vous savez, c'est ces relations qui se tissent entre les hommes et les animaux.
Mmh.
Elles sont d'une rare qualité, parce que elles ont beaucoup de pudeur et c'est très étonnant de voir comment les gens aiment leurs animaux et la façon dont ils en parlent. Et puis simplement, si vous voulez, moi quand je vois, maintenant je deviens vieux, donc j'ai la larme facile, et quand je vois un chien d'aveugle en train de surveiller son maître et de le veiller, je trouve ça bouleversant. Ce chien qui ne demande rien, qui n'a pas de vie, il n'a pas de vie à lui, il a la vie du maître. Je suis persuadé que s'il y avait un gros beefsteak sur le trajet, il s'arrêterait pas pour bouffer le beefsteak, il faut qu'il suive le maître. Et s'il y avait une jolie chienne qui lui fasse du gringue, il suit pas la petite chienne. Il s'occupe de son maître. C'est un exemple de dévouement qu'on trouve pas beaucoup ailleurs. Non, ils sont très émouvants. Il faut leur dire merci.
Et vous savez une particularité, Jean-Louis Fournier, vous me faites penser à ça, dans les carnets de campagne, on a évoqué des centres d'hébergement où on prépare les accompagnateurs sociaux à accepter aussi les animaux avec les gens de la rue. Parce que très souvent, une personne sur trois à la rue a des animaux. Je leur dis, mais ces animaux, parfois, sont en mauvaise condition. Détrompez-vous, la première chose que font les SDF, c'est plutôt nourrir leur animal que de se nourrir soi-même. Oui, et donc, ils entretiennent bien mieux leurs animaux qu'ils ne s'entretiennent eux-mêmes. Et comment vous affranchissez de ce cruel dilemme, donc d'aimer les animaux et de les manger ?
Je vais vous parler de chaîne alimentaire. Et puis, je pense que, si vous voulez, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Et ça, je pense que maintenant, les amis des bêtes s'en rendent compte. Il y a la souffrance animale et il y a la mort animale. C'est deux choses complètement différentes. Qu'un bœuf qui est arrivé à maturité, tout ça meurt, il meurt. Nous aussi, on va mourir. Pardon de vous apprendre ça un peu cruellement et brutalement.
Surtout le jour de Noël.
Ça va nous arriver aussi. La mort, c'est peut-être pas la pire chose qui puisse nous arriver. Mais la souffrance, c'est quelque chose de terrifiant. Et c'est là-dessus contre quoi je me bats. C'est la souffrance animale qui est vraiment... C'est intolérable de faire souffrir des bêtes, de les mettre dans des conditions où elles soient malheureuses. Tandis que, écoutez, c'est tellement bon.
Bon appétit. Jean-Louis Fournier, merci qui ? Merci mon chien, le tendre savoir-vivre avec les animaux chez Buchet-Chastel. Jean-Louis n'en est pas à sa première autour des animaux, puisqu'il est le père, entre autres, de la Noiraude.
Oh, la Noiraude.
Mais alors, il y a peut-être une explication à ça, parce que je l'ai découvert à travers ce livre savoureux, c'est que vous avez été éleveur ?
Mais j'ai été cultivateur.
Cultivateur, oui, pardon.
J'avais une ferme dans le Pas-de-Calais, près de Hédin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est près du Touquet-Paris-Plage,
c'est
des très jolis paysages.
Très chic.
Et j'ai rencontré une fille qui était très belle, c'était la fille d'un fermier. Et le fermier commençait à avoir un certain âge, il voulait vendre sa ferme. Et personne ne voulait acheter sa ferme.
Mmh.
Et la fille qui était étudiante, même que moi à Paris, me dit, alors j'ai dit, moi je vais prendre la ferme. Elle dit, enfin, t'es pas fermier, j'ai dit, c'est rien, je vais apprendre. Et j'ai été voir le beau-père en disant, moi, je vais reprendre votre ferme. Il m'a pris un peu pour un uluberlu et tout ça. Puis il a vu que j'étais courageux quand même. Et j'ai repris la ferme, je sais plus, ça durait quand même un ou deux ans. Où j'ai tout fait. J'étais devenu l'ouvrier agricole de la ferme en me disant, quand le père va partir, moi, je prends la ferme et j'épouse la fille. Moi, la fille, elle s'est dit, ce mec, il est pas net, net. Et puis la fille, elle a plus voulu de moi. Je me suis retrouvé dans une ferme, je n'avais plus raison d'être. Et je suis reparti à mes premières amours de cinéma et de
télé
et de boulot artistique. Mais j'ai eu vraiment, j'ai eu la vie d'un cultivateur. Je me suis tapé les moissons, j'ai fait les betteraves, j'ai fait les... C'est usant. Hein. On peut pas savoir ce que c'est.
La fatigue. Je connais un peu, oui. Enfin,
non, mais la fatigue... Oh là là.
La Noiraude est née de cette expérience?
Oui. Non, la Noiraude est née après. J'ai eu une maison à la campagne près de Compiègne. Et j'avais un voisin vétérinaire qui avait mis une grosse sonnette de téléphone quand il était dans son jardin. Et chaque fois que la sonnette sonnait, le dimanche par exemple, je disais à ma femme, tiens, voilà une vache qui appelle. Parce que mon père était médecin, je savais que le dimanche, j'avais toujours une malade qui appelait. Là, je vous dis, ben, vétérinaire, c'est une vache. Et puis, petit à petit, ça s'est foutu dans ma tête. On me dit, est-ce que tu n'aurais pas envie de faire des trucs pour les gosses? Ah ben, j'ai dit, oui, c'est rigolo de faire des communications téléphoniques entre une vache qui est toujours un petit peu de traviole et puis un vétérinaire. Et c'est comme ça que j'ai fait la chère Noiraude, qui m'a valu vraiment, dont on parle encore.
Oui, oui, bien sûr.
J'ai quelquefois des petites jeunes filles émues qui me regardent et qui me disent, c'était vous, la Noiraude? Je dis, oui, c'était moi. Je suis très fier, très content.
Oui, alors... encore une bonne nouvelle, il y a un magnifique texte dans votre ouvrage de Christian Laborde sur les 1000 vaches. Christian Laborde qui...
Ah oui, c'est sympa ce qu'il a écrit.
Claude de Nougaro. Ouais. Et ben la bonne nouvelle, c'est que la ferme des 1000 vaches qui devait ouvrir dans la Somme a dû fermer. Parce que d'abord, ils n'ont pas atteint les 1000 vaches comme ils espéraient. Ouais. Et que le gouvernement s'y opposait.
Ah oui, parce que c'était pas bien de laisser ces vaches, des vaches qui ne voyaient plus le soleil, vous rendez compte, plus de fleurs, plus d'herbe, plus rien. Ça, c'est des conditions épouvantables.
Oui. Christian Laborde, 1000 vaches arrachées aux prairies, privées de la compagnie des Piaf, menottées, incarcérées, entravées sous l'infernale tôle d'un hangar sans fin, un toit de tôle sur lequel aucun oiseau ne se pose et qui ne reflète jamais le ciel, la tête coincée entre des barreaux d'acier, les sabots pourrissants sur le ciment souillé.
Terrible, hein?
Oui.
Il est très intéressant, ce type. J'ai rencontré à l'occasion d'une fête du livre, et depuis, je suis en très bonne relation. Et chaque fois, je mets un morceau de son œuvre dans mes livres, parce que j'aime bien ce qu'il écrit. Je trouve que c'est intelligent, en plus.
Il y a une note qui nous touche, évidemment, et vous remerciez à plus d'un titre les animaux, surtout les animaux de laboratoire. Parce que s'ils font avancer la science, c'est bien eux.
Je trouvais que c'était sympa de faire une... J'ai répertorié le nombre, vous avez vu, le nombre de bêtes qui se dévouent pour les hommes.
1 145 000 souris, 307 000 poissons, 172 000 rats, 118 000 lapins, 57 000 poulets, 45 000 cochons d'Inde et les milliers de singes aussi.
Alors tout ça, c'est chaque année.
Ouais.
Alors je trouvais que c'était sympa de la part des hommes, quand il était question de dire merci à tout cela. Parce qu'ils ont donné leur bien-être pour notre bien-être à nous. Et je trouve que vraiment, ça vaut le coup. Ça, les gens vont dire, oh, tout ça, c'est du... Non, c'est pas des conneries. Je considère pas que je dis des conneries en disant ça. Moi, je les respecte beaucoup, les animaux. Et si vous voulez, actuellement, il se passe il y a une journée de l'intelligence animale par Madame Delabine, je crois, qui s'occupe à la Cité des Sciences.
Hélène Delabine.
Et déjà, intelligence animale collée ensemble, c'est quand même quelque chose d'étonnant, ça, maintenant, hein. Descartes, ça va. Et le dernier colloque, le gars qui a conclu le colloque, c'était un Britannique, il a dit « La suprématie des hommes sur les animaux est une pure fiction. » Et peut-être que ce sont les animaux qui vont nous apprendre la survie et tout ça avec leur faculté de résistance et d'adaptation. Alors, faut arrêter d'être condescendant avec les animaux, en plus au niveau intellectuel, au niveau intelligent, pas du intellectuel. Les abeilles sont complètement extraordinaires. Et puis, je sais pas, moi, j'ai vraiment... Je vous assure, moi, ce que je souhaiterais, c'est une toute petite chose, mais chaque fois qu'on mange un œuf à la coque ou une omelette, c'est qu'on sache dire merci, ma poule. Non, mais c'est vrai, écoutez, il y a une poule qui pond un œuf, elle est vachement contente, elle est fière. C'est pas rien de pondre un œuf, hein, on saurait pas, nous. Elle fait un œuf, elle chante, puis il y a un mec qui arrive, il pique l'œuf, il se casse, il casse l'œuf, et vous pensez qu'il dirait... Il dirait pas merci, ma poule.
Je vais y penser la prochaine fois. Comme vous nous annonciez, Jean-Louis Fournier, évidemment, la réalité de notre destin, c'est que nous passons un jour ou l'autre de l'autre côté, dans une seconde vie, une autre vie, peut-être pas une seconde d'ailleurs, peut-être une troisième ou quatrième, vous aimeriez être quel animal ?
Un chat.
Un chat, oui.
Ah bah oui, j'ai un chat. Je m'en dois de caresser.
Bon, bah, caresse à Art Déco. Jean-Louis Fournier, merci qui ? Merci mon chien, chez Buchet Chastel. Merci Jean-Louis.
Merci, Philippe.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Ah, une petite note qui va intéresser Jean-Louis Fournier et tout le monde, tous les propriétaires d'animaux domestiques. Courant janvier 2021, nous appellerons Basile qui nous a écrit pour nous présenter, je cite, une solution concrète afin de mieux nourrir les animaux sans détruire la planète en remplaçant la viande par des insectes. En engloutissant une année de croquettes, un labrador adulte par exemple génère 1700 kilos de CO2, soit autant que 15 000 km parcourus par une voiture. À l'échelle mondiale, les chiens et les chats consomment 20% de la viande produite avec les impacts écologiques que cela engendre. Donc Basile a eu envie de créer une entreprise à impact positif sous le nom de Réglo, soit un mélange de légumes et de larves d'insectes qui sont très riches en protéines. Le produit est fabriqué dans le Loir-et-Cher, c'est donc un produit 100% made in France. L'insecte choisi est la mouche soldat noir dont l'élevage commence à se développer chez nous. Réglo Pet Food pour l'adresse.com. Merci à Anne Yoro qui réalise les carnets, Joël Levert qui leur donne du contenu. Merci aux techniciens, techniciennes de France Inter qui leur donnent du volume comme Selim Guéribi aujourd'hui. Nicolas Stoufflet, le jeu des 1000 euros avec les enfants de l'école Honoré de Balzac à Saint-Denis.